Ce matin, on termine notre série « À qui tu parles? » Annoncer l'Évangile. Jésus a une parole vraiment extraordinaire dans Matthieu chapitre 5. Jésus dit à ses disciples, il dit à l'Église, « Vous êtes la lumière du monde. » Quelle parole incroyable! C'est quelque chose à assumer pour l'Église, cette idée que nous sommes la lumière du monde. Est-ce que vous êtes prêts à assumer cette parole-là? C'est immense. Est-ce que vous êtes prêts à partager votre foi, à oser ouvrir la bouche? Est-ce que vous êtes prêts à briller aussi par vos œuvres? Parce que dans ce contexte de Matthieu 5, vraiment l'idée qui est là, c'est que les chrétiens sont appelés à se démarquer par leurs œuvres. Jésus va jusqu'à dire que nos œuvres devraient briller à un point tel que les gens qui nous côtoient reconnaissent que nous sommes de Dieu. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Est-ce que tu vas oser ouvrir la bouche? Est-ce que tu es prêt à lire un livre avec un ami qui cherche à connaître Dieu? J'espère que cette série-là te stimule, t'encourage à oser ouvrir la bouche. Et on disait, ben, prends les occasions, même avec les barbecues de l'Église de l'Espoir, pour partager ton témoignage, te pratiquer à annoncer l'Évangile. C'est vraiment une série qui est là pour nous stimuler, pour nous encourager. Voici comment on résume l'ensemble de la série. L'Évangile de Jésus-Christ est si riche qu'il n'a pas besoin de changer pour être présenté dans toutes les cultures et dans toutes circonstances. Plus nous le découvrons, plus nous sommes émerveillés et plus nous devenons polyvalents pour l'annoncer. Et à travers cette série-là, on a vu, je vous ai dit, hein, mon thème, mon image mentale, c'était Tintin au Congo. Bon, ben, on a vu Jésus chez les Juifs avec Nicodème. On a vu Jésus avec une Samaritaine qui était une non-juive. On a vu Philippe avec un ministre éthiopien. Et cette semaine, on voit Paul à Athènes, Paul chez les Grecs. Et avec Jésus qui va vers Nicodème, en fait, c'est Nicodème qui vient vers lui. Et déjà, avec Jésus, on voit que des fois, les gens viennent vers nous, nous posent des questions. Nicodème avait entendu parler des miracles que faisait Jésus. Il avait connu ses œuvres et il est venu vers lui, lui poser des questions. On a vu avec Nicodème, bien que des fois, beaucoup de connaissances, même sur Dieu, peut t'empêcher de vraiment découvrir qui est Jésus-Christ. Et donc, ça se peut que ce que tu connais de la religion, de la foi ou des religions, t'empêche de vraiment découvrir Jésus-Christ. C'est là que je vous ai encouragé à lire, je vous ai mis au défi cet été, d'aller lire ou relire les quatre évangiles. Chrétien ou non, ça se peut que tes idées préconçues sur la personne de Jésus t'empêchent de découvrir vraiment sa grandeur, sa majesté. Mais on a vu aussi avec Nicodème, bien qu'il n'y a pas de conversion au christianisme sans une intervention de Dieu, parce qu'on parle d'un phénomène surnaturel. Moi, je suis là pour annoncer l'Évangile, toi, tu es là pour annoncer l'Évangile si tu es chrétien, mais il y a quelque chose qui doit se passer entre Dieu et la personne qui reçoit le message de l'Évangile. C'est l'Esprit-Saint qui convertit. C'est vraiment un phénomène surnaturel. Ensuite, avec la femme samaritaine, qu'est-ce qu'on a vu? Jésus prend l'initiative d'aller dans une relation qui est improbable. Il va s'adresser pour l'époque, à une femme exceptionnelle, pas bien séant, à une femme samaritaine à qui les Juifs ne parlaient pas, alors qu'ils sont isolés, ils sont seuls. Mais de cette rencontre-là, cette dame va rencontrer évidemment Jésus-Christ. Elle sort le matin pour aller chercher de l'eau, et ce soir-là, elle est rentrée chez elle, débordant elle-même d'une source de vie qui va jaillir jusque dans l'éternité, c'est-à-dire qu'elle a rencontré son Sauveur, Jésus-Christ. Et donc, ça se peut que nous allions vers des relations improbables. L'Évangile t'amène à mettre de côté tes préjugés et aller vers des gens à l'école vers qui tu n'irais jamais pour te lier d'amitié, pour ouvrir une conversation, pour les approcher, un collègue de travail, le voisin qui est le moins sympathique de la rue, bien, c'est toi qui devrais aller vers lui. Attends-toi pas à ce que les autres qui ne connaissent pas l'Évangile se dirigent vers ce voisin-là qui est si peu sympathique. Non, c'est à toi de le faire. C'est à toi d'aller vers cette relation improbable parce que c'est ce que Dieu a fait. En Jésus-Christ, il est venu vers toi, il est venu vers moi, vers cette relation improbable. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu avec Philippe et ce ministre éthiopien? Et on a vu que c'est Dieu qui est en charge de la mission. Nous entrons dans la mission de Dieu. Ce n'est pas notre mission à nous, c'est la mission de Dieu. On a très bien vu dans le passage que l'Esprit-Saint dirige entièrement Philippe à aller vers ce ministre-là. Lui-même, cet homme-là, avait été préparé, il est en train de lire un texte de l'Ancien Testament. Il est dans Ésaïe 53, un texte prophétique. Surprenant qu'il soit en train de lire ça au moment où Philippe arrive à côté de lui, comme le meilleur passage de la Bible que ce ministre éthiopien aurait pu être en train de lire si on voulait lui expliquer l'Évangile. Donc, c'est Dieu qui est en charge de la mission. Nous entrons dans la mission de Dieu. Tu n'as pas à la prendre sur tes épaules. Ce que tu es appelé à faire, c'est être disponible comme Philippe était disponible. Et c'est pour ça que je pose la question, l'espoir. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es prête à entrer dans des opportunités que Dieu place devant toi? Ça demande simplement cette disponibilité-là. C'est tellement Dieu qui est au contrôle que lorsque Philippe a fini de présenter l'Évangile, il nous est dit qu'il est transporté ailleurs. Puis on a cet homme-là qui s'en retourne dans son pays, tout heureux d'avoir rencontré Jésus-Christ, d'avoir connu Jésus-Christ, de placer sa foi en Jésus, mais on ne connaît pas le plan de match pour la suite. Et c'est ça, annoncer l'Évangile. On saisit des opportunités, on annonce l'Évangile. Je ne connais pas la suite. On est juste un maillon dans une longue chaîne où le Saint-Esprit est à l'œuvre et nous, on annonce l'Évangile. Peut-être que tout ce que tu vas faire, tu vas dire « Oui, je suis chrétien, je vais prier pour toi. » Peut-être que tu vas pouvoir présenter l'Évangile au complet. Peut-être que tu vas pouvoir accompagner cette personne-là, l'aider à découvrir vraiment la parole de Dieu, à grandir comme disciple. Mais plus probablement, tu vas être un maillon dans une longue chaîne où le Saint-Esprit est en train d'interpeller une personne. Et on accepte ça parce que Dieu est souverain. Mais on a vu aussi avec Philippe que c'est extrêmement utile d'ouvrir les Écritures et d'être capable d'ouvrir les Écritures. Lorsque le Saint-Esprit dit à Philippe d'aller auprès de cet homme-là, bien, Philippe trouve cet homme en train de lire un prophète de l'Ancien Testament, Isaïe 53, le meilleur passage pour annoncer l'Évangile dans l'Ancien Testament. Mais en même temps, je vous posais la question, est-ce que toi, tu serais prêt à te servir d'Isaïe 53? Et rappelez-vous, au début de la série, ce qu'on a dit, c'est si ce que tu connais sur Jésus-Christ, si ce que tu connais de la parole est en somme équivalent au début de ta foi, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a vraiment lieu de te remettre en question et de t'équiper pour pouvoir ouvrir les Écritures. La parole de Dieu nous dit que la Bible, la parole de Dieu, est l'épée de l'Esprit. Et donc, on est appelé à ouvrir les Écritures. Et plus j'apprends à connaître les Écritures, plus j'apprends à connaître Jésus-Christ, plus je deviens polyvalent. Littéralement polyvalent pour prendre à peu près n'importe quelle conversation. Et ce n'est pas une question d'avoir de la facilité à parler en public. Je le dis, je vous l'ai dit des centaines de fois à travers les années, j'ai l'air d'un gars qui est confortable à parler en public. Bien, c'est parce que je suis en famille avec l'Église, je suis avec vous. Mais mettez-moi dans une foule d'inconnus, je suis la personne la plus silencieuse de la salle. Mais si quelqu'un veut engager une conversation avec moi, au fil des années, à force d'étudier les Écritures, à force d'étudier le cœur humain, à force de dialoguer avec les gens, je peux entrer dans une conversation à peu près n'importe où avec la personne pour aller vers Jésus-Christ. Et ce matin, bien, on trouve pour ce dernier exposé de la série, on retrouve Paul chez les Athéniens et on va voir un autre contexte complètement différent. Où là, Paul va s'adresser, il va prendre la parole auprès de personnes qui n'ont pas d'arrière-plan juif, ne connaissent pas l'Ancien Testament. Là où on avait Nicodème qui était un expert de la Bible, on avait cette femme samaritaine qui avait quand même tout un héritage. On avait ce ministre éthiopien qui, de toute évidence, lisait les Écritures, il est en train de lire les Écritures. Paul va s'adresser maintenant à des philosophes. Et on va voir une autre approche complètement différente. Un mot sur la ville d'Athènes, puis on va dans la prière, puis on écoute la lecture de la parole. C'est F.F. Bruce, un des commentateurs des Écritures les plus connus, je dirais, de tous les temps, qui écrit sur Athènes. La sculpture, la littérature et l'art oratoire des Athéniens ou de la ville d'Athènes au 4e et 5e siècle avant Jésus-Christ, demeure inégalée. En philosophie, de même, elle a occupé la première place, étant la ville natale de Socrate, de Platon, la patrie d'adoption d'Aristote, d'Épicure, de Zénon. C'était à cette époque un centre d'apprentissage de premier plan. En termes modernes, nous pourrions la décrire comme une grande ville universitaire. Imaginez qu'on vous envoie annoncer l'Évangile à l'université. Et ceux qui sont à l'université savent que c'est un territoire miné pour annoncer l'Évangile, parce que souvent on n'est pas pris au sérieux. Bien, Paul va annoncer l'Évangile dans une ville universitaire de l'époque, la ville d'Athènes. On va aller dans la prière, puis on va écouter la lecture des Écritures. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin humblement, pas nécessairement avec le sentiment d'être très compétent pour annoncer l'Évangile, certainement pour plusieurs d'entre nous, très intimidés par cette parole extraordinaire que tu as dite, « Vous êtes la lumière du monde ». Je n'ai pas toujours l'impression d'être une lumière, tout simplement, puis d'être la lumière du monde encore moins. Seigneur, on vient devant toi humblement pour te demander de nous instruire ce matin. Si tu nous as donné ce mandat, cette mission d'ouvrir la bouche, d'annoncer l'Évangile, de faire des disciples jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur, on n'a pas la prétention de remettre en question ta sagesse. Tu as décidé de te servir de véhicule très, très, très imparfait pour communiquer un message extrêmement impopulaire, mais tellement puissant. Tu veux te servir de nous, en d'autres mots. Mais je te demande de nous parler ce matin, Seigneur. Viens nous parler, viens nous convaincre, Seigneur, que tu peux te servir de nous pour parler de toi. Viens, Seigneur, faire connaître ton message à Longueuil, dans le Grand Longueuil, au Québec, Seigneur. Cette terre non atteinte par l'Évangile, cette terre de mission unique en Amérique du Nord. Seigneur, sers-toi de nous humblement, qu'on puisse contribuer, participer, être ce maillon dans la chaîne de l'annonce de l'Évangile. Et je te prie, Père, si ce matin quelques-uns parmi nous ne connaissent pas personnellement Jésus-Christ, toi, Seigneur, viens les interpeller. Qu'au-delà des mots, au-delà des paroles qui sont prononcées, Seigneur, une œuvre puissante de ton esprit se manifeste en eux, dans leur intelligence et dans leur cœur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.
Bonjour. Alors, la lecture de ce matin est tirée du livre des Actes au chapitre 17, les versets 16 à 34, dans la nouvelle édition de Genève. Encore dans Actes 17, versets 16 à 34, dans la nouvelle édition de Genève. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur? » D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. » Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, déterminer la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux.
Merci, Claude. Donc, Paul se retrouve à Athènes. Normalement, il attend ses acolytes pour pouvoir commencer à annoncer l'Évangile, aller vers les Juifs, soit à la synagogue, soit au lieu de prière des Juifs. Mais alors qu'il marche dans la ville, puis qu'il voit une ville qui est remplie d'idoles, de toutes sortes de dieux qui étaient adorés, son âme devient irritée. Son esprit devient troublé devant tous ces mensonges-là qui empêchent de connaître le seul vrai Dieu. On lit au verset 16, « Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. » Paul, comme tout bon chrétien, vit au milieu des hommes de son époque, et lorsqu'il côtoie ce qu'il pense, ce qu'il croit, ce qu'il véhicule, les valeurs qui sont là, il y a des moments où il est troublé dans son âme, il est choqué de voir ce qu'on est en train d'enseigner aux hommes, l'endoctrinement qu'il y a là. Vendredi, j'étais avec Esther, puis on discutait, mon épouse est allée voir le film Barbie. Puis plus elle m'en parlait, plus la moutarde me montait au nez. Plus j'étais en train de m'irriter, puis plus j'étais en train de me dire, mais c'est pas possible qu'on endoctrine les jeunes comme ça, ça n'a aucun bon sens. Mais en même temps, on discutait, puis je lisais des articles, et c'est pertinent, c'est utile pour nous de comprendre ce qui est enseigné, de connaître ce qui est enseigné, même d'avoir compassion. Voyez-vous, Paul se promène au milieu de la ville, il voit toutes ces idoles qui sont là, son âme est irritée, mais il ne s'arrête pas là. Il va se servir de ça pour dialoguer, pour entrer dans un dialogue, entrer dans une conversation. Ça va même devenir sa porte d'entrée. Et donc, les chrétiens ne gagnent rien à s'isoler de la culture. Si c'est ça votre réflexe, là, si vous êtes de ces chrétiens qui disent « Oh, je vis dans un monde mauvais. » OK, check, ça a toujours été comme ça. « Donc, je dois m'isoler de tout le monde. » Non, je suis désolé. Je suis désolé. Ça ne marche pas. On n'est pas appelé à construire des monastères puis s'enfermer dans nos monastères. Et même si vous étudiez comme il faut les mouvements monastiques, c'était même pas ça l'idée. Ils vivaient au milieu des gens. Et donc, ils sortaient de leur monastère, pour la grande majorité d'entre eux, et ils essayaient de briller justement parmi les hommes. Et donc, c'est utile pour nous d'observer ce qui se passe autour de nous, de ne pas être constamment en train de juger, mais aussi à chercher à comprendre, parce que ça va nous donner plein de portes ouverte pour pouvoir annoncer l'Évangile. Et c'est ce que Paul va faire. Si vous regardez le verset 22, Paul debout au milieu de l'Aréopage, qui était une espèce de place publique où on aimait aller échanger, discuter, réfléchir, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Voyez-vous qu'il a eu le temps de reformuler son sentiment un peu? Là, on est rendu dans une louange. C'était pas le premier feeling. Je veux dire, il se promenait dans la ville puis il était irrité. Il n'était pas en train de se dire « Oh, mais qu'ils sont beaux et religieux. » Mais il a eu le temps de décanter un peu la chose puis de dire « Que ferais-je avec ceci? » Puis là, il part, puis il y a vraiment une ouverture de conversation. Voici comment je résumerais l'exposé de ce matin. L'Évangile nous révèle que tous les êtres humains sont à la fois une seule race, tous créés à l'image de Dieu et tous confus. Jésus-Christ est celui qui nous réunit et à Dieu et aux hommes. Et en somme, ce que Paul va faire, c'est qu'il va insister au départ dans sa conversation avec eux sur ce qu'ils ont en commun, lui et eux, pour ensuite les diriger vers la personne de Jésus-Christ. Et on a beaucoup à apprendre de ça. Apprendre à ne jamais perdre de vue tout ce que nous avons en commun avec les gens qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'on a beaucoup plus en commun avec eux que de différences. Et si vous croyez le contraire, c'est que vous pensez vraiment que vous êtes rendu ailleurs. Non, on se ressemble beaucoup plus qu'on est différent, mais on a évidemment le message de l'Évangile. Alors, Paul commence avec cette idée d'un seul Créateur. Actes 17, 16. Et comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de toute cette ville pleine d'idoles. Donc, il voit des gens qui adorent toutes sortes de dieux, son âme est troublée, et il se dit, OK, il va falloir adresser cette question-là avec eux. Il va falloir aborder cette idée-là. Eux croient dans une multitude de dieux, je connais la parole de Dieu, je connais la Bible, il y a un seul Dieu, il va falloir que je les amène là. On va devoir corriger ça dans la conversation. Et si vous allez au verset 17, on lit, « Ils s'entretenaient donc dans la synagogue, il y allait premièrement vers les Juifs, et les hommes craignant Dieu, qui étaient des non-Juifs, mais qui étaient attirés par l'Ancien Testament. C'étaient des sympathisants du judaïsme. Et sur la place publique aussi. » Donc, il abordait des conversations avec qui voulait bien discuter avec lui, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur? » D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine, ce nouvel enseignement que tu nous apportes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Écoutez, quand quelqu'un vous dit « Hey, parle-moi donc de ta foi. » Tu sais, là, quand quelqu'un dit « Ah, c'est quoi la différence entre le catholicisme puis les protestants? » Ou c'est quoi, là? Puis là, tout de suite, tu te redis, puis là, tu dis, OK, là, j'ai 15 secondes pour répondre la bonne réponse qui va ouvrir 26 heures de conversation. Non, la personne est curieuse. Relax. La personne veut te connaître. Tu peux raconter ton histoire, comment tu es arrivé là. Donc, Paul a une opportunité extraordinaire. Maintenant, il faut savoir que, je veux dire, la Grèce a eu un impact extraordinaire sur toute l'humanité, par sa philosophie particulièrement, mais sur l'Occident principalement. Une énorme influence. Et il faut savoir que les Grecs, à l'époque, estimaient être une race supérieure. Supérieure par leur culture, leur connaissance, leur science, les arts. Ils estimaient être une race supérieure à l'ensemble des hommes. Et c'est bon de le savoir parce que vous allez voir ce que Paul fait avec cette idée-là. Ah oui, vous êtes supérieur. Vous êtes une race différente des autres. Et certaines des philosophies de l'époque reviennent à la mode. Le stoïcisme est très populaire. Il y a un auteur, j'ai lu quelques-uns de ses livres, Ryan Holiday, très populaire chez les jeunes hommes, qui fait la promotion du stoïcisme, être stoïque. Apprendre à gérer ta vie sur des premiers principes, des principes fondamentaux. Les stoïciens croyaient que l'univers était organisé selon un principe qu'ils appelaient le logos. Et donc, tu devais gérer ta vie avec beaucoup de rationalité. Donc, tu ne te laissais pas affecter par tout ce qui se passait dans ta vie. Tu prenais de la distance, tu analysais des choses. Plein de bon sens, plein de parallèles qu'on peut faire avec le livre des Proverbes, avec plein de passages dans la Bible. Sauf que les stoïciens ne croyaient pas que celui qui a organisé l'univers, ce principe-là, est en fait une personne. Une personne qui s'est fait connaître à nous. Ce n'est pas simplement un principe, c'est une personne qui a des principes, qui a organisé l'univers. Ça, les stoïciens ne croyaient pas en ça. Les épicuriens. Ben, les épicuriens ressemblaient un peu à un Québécois moderne. Ils cherchaient les plaisirs des sens, le bonheur, le contentement aussi. Et ils croyaient que si les dieux existent, en fait, ils ne sont pas vraiment intéressés à ce qui se passe chez les hommes. Ils ne sont pas là pour juger ce que les hommes font. Je trouve que ça ressemble beaucoup aux Québécois modernes, souvent. Profite de la vie, on essaie d'apprendre à vivre une certaine simplicité volontaire, peut-être. Bon, pas très bon, assez matérialiste, mais tu sais, c'est un rêve. Je vais m'acheter mon nouveau bateau, puis après ça, j'embrasserai la simplicité volontaire. Maintenant, et ben, si Dieu existe, Dieu nous aime, puis dans le fond, tu sais, il n'est pas là pour nous juger. Ça ressemble beaucoup à ça. Ça, c'était les épicuriens. Je résume de manière grossière ce qu'ils croyaient. Et Paul, lui, vient avec un message super rassembleur. Premièrement, il va leur dire, nous sommes tous frères, nous sommes tous de la même race. Tous les êtres humains. Quelle que soit ta couleur, quelle que soit ton origine, quel que soit ton niveau d'instruction, quelle que soit ta culture, que ça semble intelligent quand tu ouvres la bouche ou complètement stupide, nous sommes tous de la même race. Au verset 26, on lit, Paul est en train de parler, puis il dit, il a fait tous les hommes sortis d'un seul sang. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Verset 28-29, « Car en lui nous avons la vie. » Donc, un seul Créateur en qui tous les hommes ont la vie, le mouvement et l'être. Et là, il va leur citer un de leurs poètes qui fait probablement référence à Zeus. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ben, il dit, vous savez intuitivement qu'en fait, il n'y a pas de race supérieure, on est tous des êtres humains et on vient tous d'un même Créateur. Ainsi donc, étant la race de Dieu, je poursuis dans Acte 17, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Je reviens à ça un petit peu plus loin. Paul est en train de dire, attendez les Grecs là, qui pensaient avoir tous les secrets. Là. En fait, on est tous semblables. Nous sommes tous des êtres humains. On vient tous du même Créateur. Voyez-vous, actuellement, notre posture à nous comme chrétiens face à la culture ou le discours ambiant en Occident, on a tendance à se sentir très marginalisé. C'est vrai que c'est souvent l'écho qu'on nous envoie. Bien, moi, je crois qu'avec l'Évangile, on a tout ce qu'il faut pour être au centre de la conversation, pas sur la marge. Par exemple, Paul dit, on est tous pareils. Et s'il y a quelqu'un qui croit sur la terre qu'on est tous pareils, c'est les chrétiens. On n'est pas supérieurs, on est pécheurs comme tout le monde. On a été créés, tous les êtres humains sur la terre, à l'image de Dieu. Que tu aies un QI de 120 ou que tu sois déficient intellectuel, trisomique profond, ça ne change rien. Tu as été créé à l'image de Dieu. Semblable à Dieu. Que tu sois de n'importe quelle culture, de n'importe quelle religion, tu es une personne que je dois estimer et respecter parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Alors, quand la culture, le message ambiant, veut vous pousser à la marge, alors que la culture se divise agressivement, hein, on se polarise, tout le monde se polarise, moi, je vous dis que les chrétiens, on peut venir humblement au centre. D'abord, je n'ai même pas besoin d'être respecté pour aimer les gens. Je n'ai pas besoin d'être écouté pour aimer les gens. Je n'ai pas besoin que les gens me traitent de bonne manière pour les aimer. J'ai un commandement, je dois aimer tout le monde, même mes ennemis. Et donc, Paul arrive avec ce message-là, super rassembleur, et dit, nous sommes tous de la même race. Vous n'êtes pas supérieurs, mes amis les Grecs. Vous êtes pécheurs comme le reste des hommes, et vous venez, vous aussi, d'un seul et même Créateur. Et lorsque Paul est en train de faire un argument comme ça, remarquez qu'il n'est pas en train simplement d'adopter des philosophies de l'époque. Il s'inspire des Écritures. C'est ce que la Bible enseigne. Les Écritures nous enseignent que nous venons tous d'un même homme, d'un même père et d'une même mère. La science allait les rattraper un jour. La science allait confirmer ces choses-là un jour. Mais l'apôtre Paul avance avec les Écritures. Et non seulement il a un message rassembleur dans le fait qu'on vient tous de la même race, mais il dit, nous sommes tous dans une même quête, une quête de sens, une quête de Dieu, tous les êtres humains. Et c'est ça qu'il est en train de reconnaître lorsqu'il voit toutes leurs idoles qui sont là. Il dit, dans le fond, vous savez quoi? Vous avez le même réflexe que tous les êtres humains. Vous êtes en quête de sens. Pourquoi on est sur la terre? Est-ce qu'on a un Créateur vers qui on va se tourner? Qui va nous aider à comprendre pourquoi nous existons? Et finalement, tous les cultes que vous avez, toutes les religions que vous avez, toutes les philosophies que vous avez, cherchent à répondre à ces questions fondamentales qui sont dans tous les êtres humains. Et ce que Paul fait ici, c'est qu'il dit, voici, nous sommes semblables. Nous sommes tous engagés dans cette quête de sens. C'est ce que Paul reconnaît au verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Bien sûr, l'être humain est fondamentalement religieux. Nous avons tous des croyances qui nous aident à dépasser juste le non-sens de dire « je passe le balai ». Ce n'est pas suffisant pour m'expliquer pourquoi je suis sur la terre que je passe le balai. Je vais trouver un sens à ça. Ça peut être une religion, ça peut être une philosophie, mais ça va être une croyance. Ça, c'est certain. Au verset 23, il dit, « Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Quand tu veux partager l'Évangile avec des gens, avec des collègues de travail, quand tu arrives en classe, au cégep cet automne, au secondaire, peu importe, Commence par observer les gens autour de toi et chercher tout ce que vous avez en commun. Parce que vous avez beaucoup plus en commun que de différences. Même si vous êtes chrétien et vous avez un autre système de valeurs. Vous avez beaucoup plus en commun avec les êtres humains qui ne sont pas chrétiens que vous le pensez. Et vous devriez être capable de reconnaître ces choses-là. Si les différences, les systèmes de valeurs qui sont différents, fait que tout ce que vous voyez, c'est des différences parce que vous êtes effrayés, vous avez tellement peur qu'ils viennent corrompre vos enfants que là, vous vous sauvez puis vous dites, « Sauvons-nous, on va aller se bâtir une cabane au fond des bois dans le nord québécois. » Vous n'avez rien compris. Je veux dire, la cabane, Jésus est en train de la préparer, prépare une place au ciel, ça va être pacifique, il n'y aura plus d'opposition, ça va être la joie totale. Ça, c'est pour ta promotion au ciel. En attendant, on est là pour vivre parmi les gens. Et lorsque l'apôtre Paul, après avoir été irrité, vous comprenez? Je veux dire, il est pareil comme toi puis moi, là. Il se promène au milieu de la ville, puis il est bouleversé par ces systèmes de valeurs-là, mais il dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a tellement une vérité plus belle que toutes leurs fausses croyances, il faut que je leur dise ça. Il est irrité, il est troublé, mais il prend le temps de décanter ça, puis de dire, bon, par où on commence cette conversation-là? Par ce que nous avons en commun. Nous sommes tous de la même race. Et nous sommes tous engagés dans une quête de sens, une quête de Dieu. Et Paul, partant de là, va pouvoir leur annoncer l'Évangile. Dieu nous appelle à ouvrir la bouche, à partager l'Évangile, en apprenant à trouver ce que nous avons de commun avec les gens autour de nous. Et ça se peut que la culture te fasse peur à certains égards, je le comprends. Je comprends. C'est un autre système de valeurs dans bien des domaines. Mais en même temps, il y a tellement de choses communes. En théologie, il y a une notion qu'on appelle la grâce commune. La grâce commune, c'est une des manières de l'exprimer. C'est tout ce que tous les êtres humains peuvent faire de bon, qu'ils connaissent Dieu ou non. Ça, c'est la grâce commune. C'est ce qui fait que tu vas voir des gens qui ne connaissent pas du tout Jésus-Christ, qui vont poser des actes de bravoure, qui vont intervenir, qui vont faire des choses vraiment nobles, vraiment bien. Paul va aller jusqu'à citer un de leurs poètes qui est en train de parler de Zeus, il n'est pas en train de parler de Yahvé. Mais il va citer comme point de départ. Maintenant, si on est tous de la même race, si nous sommes tous engagés dans une même quête de sens, on sait aussi que c'est Dieu qui a créé tous les hommes et que c'est Dieu qui s'est fait connaître aux hommes. Et donc, ce que Paul va aborder deuxièmement avec eux, il va leur dire, si vous voulez connaître ce Dieu-là que vous cherchez à adorer, qui vous est inconnu, il faut qu'il se fasse connaître à vous. Il s'est fait connaître à moi, j'ai un message pour vous. Et donc, Paul va leur parler de révélation, parce que Dieu n'est pas le fruit de notre imagination. Dieu n'est pas le fruit de notre imagination. Paul leur dit, vous êtes à tous égards extrêmement religieux. Je le vois que vous êtes religieux. Mais Paul veut leur dire, Dieu n'est pas le fruit de votre imagination. En fait, vous êtes le fruit de son imagination. C'est lui qui a conçu l'humanité. C'est intéressant, au verset 24, il dit, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et l'être. » Paul est en train de dire, pensez-y deux secondes. Lorsque vos meilleurs artistes à Athènes décident de sculpter une statue qui représente l'être humain, est-ce que vous en venez vraiment à croire que cette statue est plus essentiellement humaine que l'artiste qui l'a fait? Non, c'est une représentation. C'est une représentation de quelque chose qui est plus beau, plus riche, plus complexe qu'une statue de pierre. Elle peut être superbe, la statue de pierre. Elle me dit certaines choses sur l'être humain, mais elle ne me dit pas beaucoup. Hein? Je ne sais pas si vous avez visité dans des musées de très, très vieilles sculptures. Ils avaient une maîtrise de l'art qui était absolument phénoménale, extraordinaire. Mais il fallait aussi qu'ils écrivent des livres si on voulait rentrer dans la tête qu'il y a sur cette statue-là, parce que la statue elle-même ne résume pas qui est l'être humain. Et là, il dit, vous faites des représentations physiques, des statues qui représenteraient le Créateur, sérieusement? Non. Dieu est plus grand que ça. Dieu ne peut pas rentrer dans un temple. Il pourrait venir se faire connaître à travers un temple, mais il ne peut pas être contenu par un temple. Dieu est tellement grand qu'il dépasse le cadre de votre imagination. Vous n'avez pas un esprit suffisamment grand, une imagination suffisamment puissante pour pouvoir définir les contours de la personne de Dieu, encore moins le sculpter dans une statue. C'est lui qui vous a pensé et vous pensez que vous pouvez l'imaginer. Paul est en train de dire non, il a fallu que lui vienne se faire connaître à nous parce que Dieu n'est pas le fruit de notre imagination. Et c'est intéressant lorsqu'on discute avec des gens de leur dire, écoute, je comprends que c'est séduisant d'imaginer Dieu comme tu le voudrais. Mais quand tu regardes ta position dans l'univers, quelqu'un qui m'a partagé cette semaine le nombre estimé de planètes dans l'univers, on était dans les, je ne sais pas trop, les 700 millions de milliards de je ne sais pas quoi. C'est le fun que tu imagines Dieu puis que tu t'amuses à imaginer Dieu. Mais si tu fais juste replacer ta position dans l'univers, est-ce que tu penses que ça te revient à toi d'imaginer tout ça ou ça ne serait pas à celui qui a mis cet ordre-là dans l'univers, qui a créé cette planète improbable, ce lieu improbable et ces êtres improbables qui y vivent? Est-ce que vraiment tu penses que toi, tu peux mettre le Créateur dans une petite boîte puis nous dire « voici ce dont il a l'air, voici ses valeurs, voici ce qu'il est » Non, Paul dit tout au plus, Dieu nous a donné un sentiment de l'infini. C'est ce qu'il dit dans Romains 1. Il nous a donné une intuition qui nous dit, il y a plus que moi, il y a plus grand que ça, il y a un designer derrière tout l'univers, il y a un créateur derrière l'univers, il y a quelqu'un qui est à l'origine de tout, et j'avance à tâtons, je cherche. Paul dit, mais tu ne pourras pas par toi-même aller plus loin que ça. Tu vas pouvoir être émerveillé devant un coucher de soleil puis dire « Wow, il y a un artiste derrière ça. » Tu vas pouvoir en faire des représentations, des tableaux de ce coucher de soleil. Mais pour que tu connaisses davantage ce Créateur-là, il va falloir qu'il couvre la distance et qu'il se fasse connaître à toi. Et ça m'amène à mon troisième et dernier point. Dieu doit se révéler à travers une personne. Et une des choses importantes à retenir lorsqu'on pense à annoncer l'Évangile, c'est qu'il va toujours venir un moment quand tu annonces l'Évangile où il va falloir que tu prononces les paroles les plus offensantes de l'histoire de l'humanité. C'est un nom, Jésus-Christ. Il va falloir que tu le fasses. Il faut que tu le dises. Parce qu'ils ne connaîtront pas Dieu sinon qu'à tâtons s'ils n'en viennent pas à connaître Dieu, le Fils qui est venu nous faire connaître le Père. Et donc, tout va bien pour Paul. Il est parti sur des grands principes philosophiques, il les amène ailleurs et dit « Et si nous étions tous de la même race? » Oh, intéressant. Là, il est philosophe. Ça va jusque-là. Jusqu'à ce qu'ils disent « Oh, les mots blasphématoires, Jésus-Christ l'a ressuscité. » T'as pas le choix. T'as pas le choix. Parce qu'ils ne connaîtront jamais Dieu le Père si tu ne leur fais pas connaître Dieu le Fils. Dans le passage ici, on n'a pas le nom de Jésus, mais il parle du ressuscité. Il s'en va là. Et constamment, plus tôt dans le même passage, il nous est dit qu'il annonçait tous les jours Jésus-Christ. J'aime lire des livres d'apologétique. Vous savez c'est quoi de l'apologétique? C'est la défense de la foi. C'est vraiment utile, c'est vraiment intéressant. Une des choses que ça te permet d'établir, c'est tu penses que notre foi est naïve? Non, notre foi est peut-être plus éclairée que la tienne. Et peut-être plus réfléchi que la tienne. Peut-être qu'en fait, que tout ce que tu crois, tu l'as peu réfléchi. Laisse-moi juste engager une conversation avec toi pour voir si je peux défendre ma foi un peu puis que ça tienne la route. Apologétique, super utile. Tu conduiras personne à Christ sans passer par Christ. Et tu conduiras personne à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Sans parler du ressuscité. Et oui, la majorité des gens vont dire, OK, c'est là que je décroche. Là. Quand tu fly avec tes résurrections, là, tu sais, là, c'est là que je débarque. Too much for me. Verset 30-31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Blasphème. Paul s'est rendu à l'endroit où il a commencé à parler de Jésus le ressuscité. Vous n'avez pas le choix, vous devez aller là. Parce que c'est dans une rencontre personnelle avec Jésus-Christ que les gens vont pouvoir se convertir. Jésus est la révélation parfaite de Dieu. C'est en Jésus-Christ que vient se résoudre tout le mystère de l'humanité. C'est en lui que vient se résoudre le mystère du bien et du mal. C'est en lui que vient se résoudre le mystère de l'amour de Dieu et sa sainteté. C'est en lui que vient se résoudre le mystère d'un Dieu inconnu qui se fait connaître. Un Dieu mystérieux qui est esprit, mais qui finalement nous ressemble beaucoup parce qu'on a été créé à son image. Et c'est en côtoyant Jésus-Christ, en lisant les évangiles, que tu découvres ce Dieu inconnu et tu te dis, mais qu'il est séduisant, mais qu'il est beau, mais qu'il est aimable, mais qu'il est doux, mais qu'il est gracieux, mais qu'il est puissant. Mais sa parole est juste, elle est vraie. Et c'est en te réconciliant avec Dieu. Il parle de repentance. Oui, bien sûr, comme tous les hommes, vous cherchez à connaître Dieu, vous philosophez, vous adorez toutes sortes de dieux, vous avez cette quête de sens, cette quête de Dieu. Tout le monde est animé par ça. Mais vous êtes ignorant tant et aussi longtemps que vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Si vous retenez une seule chose de toute la série, sachez ceci. Vous êtes la lumière du monde, et la lumière est offensante à celui qui ne veut pas venir à la lumière. Vous êtes la lumière du monde parce que vous avez l'Évangile de Jésus-Christ. Et la lumière est offensante à celui qui ne veut pas venir à la lumière. Vous allez devoir prononcer le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui vient résoudre ces mystères-là. Pourquoi tous les hommes, nous qui sommes tous d'une même race, pourquoi le bien, pourquoi le mal? Pourquoi Dieu nous aurait-il créés s'il y a tant de souffrances dans le monde? Où ça s'en va? Quel est ce sens? Est-ce qu'il y a une mort après la vie? Tout se résout en Jésus-Christ, parce qu'il est la révélation de Dieu. Et Dieu a prouvé qu'il était la révélation en le ressuscitant d'entre les morts. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Paul dit aux Athéniens, vous êtes appelés à vous repentir d'une quête que vous dirigez vous-même. Vous cherchez Dieu, vous philosophez, vous créez des dieux. Vous êtes propriétaire, vous êtes au gouvernail de votre vie dans cette quête philosophique. Vous avancez dans le monde puis vous dites, « Moi, je vais réfléchir sur le sens du monde, je vais concevoir Dieu comme je l'imagine. » Et Paul leur dit, « Vous avez de bonnes intuitions. Dieu existe. Maintenant, vous êtes appelés à vous repentir d'être le pilote de votre vie pour venir entendre Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour vous. » Et remarquez que dans cette présentation-là, il ne parle pas de pardon. Il parle de repentance. Certainement, si les gens avaient continué à l'écouter, ils auraient pu présenter l'Évangile en entier. Mais annoncer l'Évangile, c'est prendre ces portes que Dieu nous ouvre, engager une conversation et exhorter les gens à venir connaître Jésus-Christ. Amen? C'est ça, annoncer l'Évangile. L'espoir. L'espoir. Tu es la lumière du monde. Je vous l'ai dit, on vit dans le seul territoire en Amérique du Nord qui est reconnu par les missiologues comme un « unreached people group », un peuple non atteint avec l'Évangile. Seul territoire en Amérique du Nord. L'espoir. Tu es la lumière du monde. Est-ce que tu es prêt à annoncer Jésus-Christ? Est-ce que tu es disponible comme Philippe était disponible? Est-ce que tu es prêt à mettre de côté tes préjugés, à aller vers un collègue de travail, vers qui normalement tu n'irais pas, un étudiant à l'école, quelqu'un, un voisin, et être cette personne qui va vers celui vers qui personne ne va? Pour l'aimer en mettant de côté tes préjugés, en ouvrant une conversation avec cette personne-là. Est-ce que tu es prêt à apprendre à observer les gens autour de toi, observer la culture sans te camper, monter dans ta tour d'ivoire puis dire « Oh, moi, je suis chrétien, je vais me tenir loin des pécheurs. » Ce n'est pas la réputation de Jésus, hein? C'est l'ami des pécheurs. Et vous savez quoi? Les pécheurs ne se sentaient pas étudiés par Jésus. Ils se sentaient aimés par lui. L'espoir, est-ce que tu es prêt à faire ça? Est-ce que tu es prêt à t'investir dans cette quête-là? Est-ce que tu es prêt à te lancer dans cette aventure-là comme Philippe, qui le Saint-Esprit lui dit, « Va là, tu vas voir, je vais me servir de toi. » Est-ce que tu es prêt à partir à l'aventure en prenant le risque peut-être d'être rejeté? En prenant le risque peut-être de laisser quelqu'un partir joyeux d'avoir connu Jésus-Christ. Si tu es chrétien comme moi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été disponible pour annoncer l'Évangile. C'est peut-être tes parents, c'est peut-être un inconnu, un étranger. Mon beau-père a été conduit à l'Évangile par un étranger, un monsieur simple, qui l'a accosté dans un McDo. Je n'irai pas dans les détails parce que ça ne se répète pas vraiment. Il a commencé à discuter avec lui, puis à un moment, il l'a insulté en lui disant « t'es juste un espèce d'orgueilleux ». Mon beau-père avait étudié pour être prêtre, donc dans sa tête, à lui, il connaissait tout de la religion. Pour lui, il était un homme instruit qui parlait un inculte. Et il y a une amitié qui s'est développée, et c'est cet homme-là qui l'a conduit au Seigneur. Si tu es chrétien aujourd'hui, si ta famille est composée de plusieurs chrétiens, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a eu le courage de se lancer dans cette aventure-là. C'est ton appel. C'est mon appel. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ta parole est incroyable, ta parole est merveilleuse parce que tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur Jésus, en toi se résout les grandes questions de la vie, Seigneur. En toi, Seigneur, on trouve la grâce d'aimer les gens qui sont loin de nous, les gens que nous ne serions pas portés à aimer. En toi, Seigneur, on trouve des réponses qu'on peut apporter à des gens qui cherchent, qui posent des questions, qui sont en quête de sens. Mais Seigneur, on veut confesser en Église que nous n'annonçons plus l'Évangile comme on l'annonçait dans les années 70, dans les années 80, avec une fougue, avec un feu, avec une flamme, ou sans gêne, on annonçait Jésus-Christ. Et où, Seigneur, des milliers et des milliers de personnes sont venues à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Non, Seigneur, aujourd'hui, la culture nous intimide. On a vraiment le sentiment de ne pas être populaire. Et on te confesse, Seigneur, que ce serait confortable pour nous si tu pouvais renverser la vague et faire que l'Église soit populaire, qu'on soit vraiment le « new kid around the block » puis que tout le monde veuille entendre parler de notre foi. Ce serait tellement plus facile, Seigneur. Seigneur, on veut te confesser notre manque de foi, notre manque de courage. Parce que trop souvent, nous n'osons pas ouvrir la bouche, prendre le risque de voir une âme venir à toi. Seigneur, je te demande de parler à nos cœurs cet été. Viens nous montrer la majesté, la beauté de Jésus-Christ. Qu'en relisant les Évangiles, nous soyons émerveillés par toi, fiers de toi, Seigneur. Et Seigneur, que l'espoir ouvre la bouche pour parler de Jésus-Christ. Amen. Amen.